Il était une fois.
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 En ces deux mois d'été, je vous propose un voyage en France, à la découverte des légendes et mythes qui circulent depuis la nuit des temps dans notre beau pays. Au vu de la durée de ces histoires, elles seront souvent découpées en deux parties, que vous pourrez retrouver tous les mercredis de juillet et d'août. Sur ces mots, je vous souhaite de très belles vacances. Profitez bien du soleil et du repos réparateur. À bientôt sur Il était une fois. Dans les temps celtiques, la baie de Saint-Michel ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Un bois épais s'étendait sur une partie des grèves actuelles. Et tout au bout, entre l'océan des chênes et celui des flots, se dressait la pyramide granitique qui devint plus tard le mont Saint-Michel. Les druides l'avaient consacré au dieu solaire et le nommaient Tom Belen. Une caverne s'ouvrait dans les flancs du roc. On y trouvait un temple circulaire, soutenu par des monolithes bruts. Là, dans le demi-jour de la crypte, brillait le fer des javelots, des piles de casques, des lingots d'or, des bracelets de guerriers. Et dans le fond, on voyait, rangés en demi-cercle, les étendards de diverses tribus gauloises, aux ailes bariolées, veillant comme des génies attentifs sur ce trésor. Un collège de 9 prophétesses, appelées Seines, habitait ce sanctuaire. Les marins qui affrontaient la mer venaient les consulter dans cette caverne. C'est là qu'elles rendaient leurs oracles, ou qu'elles vendaient à prix d'or des flèches magiques en bois de frêne à la pointe de cuivre et couvertes de plumes de faucon. Ces flèches étaient censées détourner les orages, et les Gaulois les lançaient dans les nuages quand grondait la foudre. Les Seines répandaient une terreur mystérieuse. On les appelait des fées, c'est-à-dire des êtres semi-divins, capables de révéler l'avenir ou de revêtir diverses formes d'animaux, de circuler invisibles dans les rivières et de voyager avec le vent. Au mont Belenus ou mont Belen, elles avaient substitué au culte mâle du soleil celui de la lune, qui favorisait leur sort, leurs filtres et leurs incantations. Le marin téméraire qui osait approcher avec le flux de la mer voyait quelquefois des rondes de femmes demi-nues agitant des flambeaux. Mais on racontait que si un étranger était assez fou pour accoster sans être invité, un ouragan chassait son embarcation au large et que d'effrayantes visions le poursuivaient au loin sur les eaux avant de sombrer. Et pourtant, un chef gaulois qui méditait une guerre lointaine était tenté d'aborder là. La seconde vue était rare, le délire sacré se perdait, et les jalouses druidesses étaient avares de leur science. Mais un bruit courait parmi les tribus. Quiconque gagnait l'amour d'une druidesse lui arrachait le secret de sa destinée. Grand sacrilège que voilà, 100 fois on y risquait sa vie pour une seule victoire. Mais cette pensée conduisait le chef gaulois, ouvrait toutes grandes les ailes de son désir. N'avait-il pas peur de la mort, me demanderez-vous? Mais lui, n'avait-il pas vu de simples guerriers tendre la gorge au couteau du sacrifice pour quelques cruches de vin qu'on distribuait à ses amis avant de mourir? Et lui-même, n'avait-il pas exposé son corps blanc et nu dans la fête des lances pour voir couler son sang rouge comme une parure? N'avait-il pas, au mugissement des trompes d'airain, aux notes stridentes du barde qui ébranle l'air comme une tempête, pousser son cheval hennissant au milieu des légions romaines? Alors, pourquoi ne pas tenter sa chance? Un nouveau frisson secouait son corps, alors que par une nuit noire, il dirigeait sa nacelle vers l'îlot de Céridwen, la déesse de la nuit. Des torches mouvantes annonçaient la présence des 9 Seines sur la plage. Ces flammes errantes au bord du grand océan annonçaient la limite des 2 mondes. Là le guettait l'amour ou la mort. Sur l'îlot, au milieu d'un cercle de pierre, se mouvaient en ronde et torches en main les 9 Seines. Elles étaient vêtues de tuniques noires, bras et jambes nus, les unes avec des faucilles d'or au flanc, les autres avec des carquois d'or remplis de flèches sur les épaules, toutes couronnées de verveine. Elles tournaient autour d'un feu surmonté d'un vase de cuivre où écumait l'eau et elles y jetaient des herbes et des fleurs. Dans ce grand vase, elles élaboraient leurs filtres et invoquaient les dieux avec des interjections courtes et haletantes. Au milieu de leur cérémonie, les prêtresses virent s'avancer dans leur cercle un guerrier au casque coiffé d'ailes d'aigle, son épaisse chevelure d'une teinte enflammée roulant en grosses tresses sur son dos, le regard fier, le bouclier à côté et l'épée à la main. D'une voix forte, il leur dit « Par Baléole, aux cheveux de flamme, qui réchauffe le cœur de l'homme, je demande asile. Pour savoir ma destinée de l'une de vous, je donne ma vie en gage. Je la jette, comme ce bouclier et cette épée dans le cercle des dieux. » Affolé de stupeur devant cette apparition et ramassé en un groupe, les scènes écoutaient ce défi. Puis, avec un cri sauvage, elles se jetèrent sur l'audacieux. Il se laissa faire en riant. En un instant, il était désarmé, terrassé, lié par les 9 femmes changées en furie. « Que la plus jeune fasse le sacrifice à Kéridwen, » disait la plus âgée des druidesses. Car la loi des scènes voulait que le profanateur mourût sur le champ. Dédaigneux, il chantait en les bravant. « Par Baléole, frappez! Je ne vous crains pas! Frappez le fils du soleil, fille de la lune, prêtresse de la nuit, frappez! Et libre, je partirai pour le grand voyage. Ma langue dira mon chant de mort au milieu du cercle de pierre. Mon sang coulera dans la corne d'or, sous la main de la femme. Avance, la corne d'or dans ta main, la main sur le couteau sur la tête. » Et le couteau brillait dans la main de la plus jeune des scènes. Il allait s'abattre sur ce beau corps palpitant garrotté sur le roc. Mais le regard farouche de la druidesse, fasciné par celui de sa victime, se troubla d'un vertige inconnu. Son souffle s'arrêta, son bras se glaça, et le couteau tomba finalement de sa main. Dans son œil hagard, une immense pitié succédait à la fureur sacrée. Malheur à elle! La sacrificatrice devenait la victime. Le Gaulois avait vaincu. Livrée au vainqueur, la druidesse devait mourir à sa place. Ses compagnes poussèrent un cri d'horreur, une malédiction terrible. Elles jetèrent sur l'abandonnée l'ache et la cendre en détournant la tête. Puis elles s'enfuirent à la hâte sur leur barque, rapides comme des mouettes, saisies d'épouvante. Pour 3 jours, l'île de la mort devint l'île de l'amour. 3 jours, 3 nuits de grâce, 3 sourires de lune nuptiales et funèbres. Voilà ce que les scènes implacables accordaient à leur sœur maudite et condamnée. Libre vainqueur d'effeuiller sa couronne de verveine, d'arracher tout ce qu'il pouvait au cœur de la druidesse, dompté par l'amour et voué au suicide ou au supplice. Plein de stupeur et d'un effroi sacré, il contemplait cette fiancée muette, assise au bord de sa tombe. Grâce redoutable, amère volupté que lui accordait Kéridwen, la déesse de la nuit.